Aye.
Alors, il me reste quelques livres. J'aimerais beaucoup ne pas les emporter avec moi. J'en ai apporté 10, il m'en reste encore 5. Donc, merci à ceux qui ont déjà acheté. Il en reste. Je serais bien content de vous les vendre. Allez. Dernière session ensemble. L'accueil, une dynamique authentique ou un outil de croissance. Lors d'une retraite de ce genre où nous réfléchissons ensemble à une thématique comme celle de l'accueil, j'ai voulu éviter toute une liste d'astuces de recettes que nous pourrions mettre en œuvre pour mieux accueillir. On aurait pu faire un atelier sur les idées des uns et des autres, peut-être ceux qui avaient connu dans d'autres églises d'autres modes d'accueil, ça aurait été enrichissant. Mais j'ai voulu l'éviter parce que nous vivons dans une société qui aime bien transposer les notions du pratico-pratique dans le domaine relationnel. Nous aurions pu parler d'une boîte à outils de l'accueil. Qu'est-ce que serait la boîte à outils idéale de l'accueil? Mais dans le cadre qui nous intéresse, il nous faut justement veiller à ne pas voir l'accueil comme un moyen d'accéder à autre chose. Je vais vous le dire autrement. Si vous, dans l'église baptiste de Clermont-Ferrand, votre accueil a pour finalité de faire grandir l'église, eh bien vous allez faire fausse route. La croissance de l'église est un symptôme d'un bon accueil. L'accueil en lui-même est la base et constitue quelque chose de bien que Dieu nous demande de faire. Non pas parce que les gens sont des membres d'église en puissance, non pas parce que les gens sont des convertis en puissance, mais parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu, porte en lui, en elle, l'image du Créateur, et à ce titre vaut la peine d'être accueilli. L'accueil, c'est comme une manifestation parmi beaucoup d'autres de l'amour. Nous accueillons, et là je paraphrase la Bible, nous accueillons parce que nous avons été accueillis. Comme il est dit dans la Bible, nous aimons parce que nous avons été aimés. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore ses adversaires. L'accueil n'est pas juste le moyen d'atteindre un objectif. Il ne s'agit pas juste d'un outil de croissance de l'Église. L'accueil est une mise en œuvre concrète et pratique de l'Évangile même. L'accueil en soi est une extension du royaume de Dieu. Il n'est pas seulement le moyen de parvenir à l'extension du royaume de Dieu. Le geste d'accueillir l'autre dans sa différence et parfois avec ses difficultés est une action bonne qui représente en soi une obéissance au Seigneur. Pour concrétiser ces considérations qui peuvent sembler un peu théoriques, je vous propose de les voir de la façon suivante. La motivation qui nous pousse à accueillir une personne dans notre Église ou dans notre entourage, en tant que chrétien, n'est pas l'espoir que cette personne rejoigne l'Église, ni même forcément qu'elle se convertisse. Je prends un exemple très concret. La petite implantation d'église à laquelle je participe au Mans est dans le quartier universitaire. Et un des choix, une des décisions que nous avons prises, c'est de nous investir dans les étudiants. Alors, aux étudiants, c'est bien, ça ajoute une belle dynamique à la vie de l'Église quand ils y sont, mais ils n'ont pas vocation à y rester. On ne peut pas construire l'Église locale rien qu'avec des étudiants. Mais les accueillir, d'abord, nous bénéficions beaucoup nous-mêmes parce que nous allons bénéficier de leur dynamisme, de leur talent, de leur présence, de leur joie, de leur disponibilité ou parfois indisponibilité. Nous allons les accompagner pendant un bout de chemin de leur vie spirituelle. Mais nous n'allons pas les accueillir parce que potentiellement ce sont le futur de l'Église. Ils le sont rarement. Généralement, ils sont le futur d'une autre Église. Et ça, il faut qu'on en tienne compte Et il faut qu'on prenne la décision, nous avons pris la décision intentionnelle, nous allons néanmoins les accueillir. L'accueil en lui-même, j'ai donc dit, est une façon d'obéir au Seigneur. La motivation qui nous pousse à accueillir une personne n'est pas l'espoir que cette personne rejoigne notre Église, ni même forcément qu'elle se convertisse. Nous l'accueillons parce qu'il s'agit d'une personne porteuse de l'image de Dieu dans son humanité la plus fondamentale. Nous le faisons aussi pour imiter Jésus dans sa manière d'interagir avec ceux qu'il rencontrait. Nous allons voir deux textes ensemble aujourd'hui, tirés des évangiles, qui soulignent quelque chose que j'aimerais vraiment vous laisser à la fin de cette réflexion de deux jours ensemble, que dans la notion d'accueil, l'important, c'est que la personne que nous avons en face est valorisée pour qui elle est. Quel que soit son passé, quel que soit son vécu conjugal, quel que soit son statut social, quelle que soit son orientation sexuelle, nous avons parcouru, évoqué ces différentes situations de vie au cours de nos deux jours ensemble. Il est important qu'elle soit valorisée pour qui elle est, et pas seulement pour la personne qu'elle représenterait pour nous, c'est-à-dire un membre d'église, un converti. Un converti, c'est bien quelqu'un qui se convertit, parce que ça valorise, c'est quelqu'un qui... en fait, m'a dit, je suis d'accord avec tes opinions, tes convictions spirituelles. Si moi j'évangélise quelqu'un, je partage l'évangile et la personne se convertit, eh bien ça me renforce dans mes convictions. C'est super, c'est bien. Mais si j'y trouve ma validation de chrétien, j'ai intérêt à faire beaucoup de convertis, hein, parce que sinon je vais avoir du mal. Je vais trouver que je suis nul, très vite. Parce que c'est difficile, les gens ne se convertissent pas parce qu'ils sont convaincus par les paroles de Jonathan. Ils se convertissent parce que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. Si notre assurance de chrétien dépend du nombre de personnes que nous convaincons de la justesse et de la vérité de l'Évangile, alors nous aurons du mal à progresser dans notre foi. J'ai dit que nous allons voir deux textes. Je vous invite à ouvrir dans Jean chapitre 4, le récit célèbre et bien connu de Jésus et la femme samaritaine. Nous n'allons pas faire une étude biblique approfondie de chaque verset, mais j'aimerais, nous connaissons tous le récit de toute façon, mais j'aimerais vous inviter à quelques observations concernant la façon dont Jésus procède avec cette femme. Jésus, je lis à partir du verset 3, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, ou Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » On peut supposer que Jésus a aussi dit « s'il te plaît » ou en tout cas qu'il a formulé sa demande de la façon culturellement appropriée à l'époque et au lieu. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Petite pause dans la lecture. Je suis étonné par la manière dont Jésus aborde quelqu'un qu'il s'apprête à évangéliser. Est-ce que vous avez perçu à quel point il se met en situation de vulnérabilité en lui demandant à boire? Il va à l'encontre des conventions sociales. Il se met en situation de demandeur, lui qui est le créateur de H2O, lui qui a conçu la façon dont les atomes et les molécules forment le liquide que nous appelons de l'eau, il se met en situation de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait très bien pu lui dire non et repartir. Elle aurait très bien pu lui en donner, et ensuite, plus rien. ne pas engager la conversation. Alors vous allez me dire, ben, Jésus, il savait qui c'était. Il savait quelle serait la suite. Peut-être, oui. Nous ne pouvons pas toujours savoir comme Jésus savait. Moi, je ne sais pas ce que Jésus savait. Hein. Jésus a pris des limitations dans l'incarnation et les théologiens aujourd'hui sont encore en train de débattre de que signifiait réellement pour Jésus les limites de l'incarnation. En tant que bébé dans les bras de sa mère, qui ne savait pas se nettoyer, qui ne savait pas se garder propre, qui avait besoin de ses parents pour manger et boire, il a accepté des limitations physiques, mais absolument extraordinaires. Et moi, je ne sais pas quelles sont les limitations intellectuelles, mentales, qu'il a aussi acceptées lors de l'incarnation. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que, comme je le dis, les théologiens d'aujourd'hui ne sont pas encore d'accord, discutent encore de ce que ça voulait dire. Mais une chose est claire, c'est que dans cette approche d'une personne qu'il cherchait à rencontrer, qu'il cherchait à, on va le dire, accueillir dans le cadre relationnel en tout cas, Jésus se met dans une situation où, de respect à son égard, où elle aurait pu simplement partir. Et ça continue, ce n'est pas la seule fois où il lui accorde le respect de ne pas lui imposer l'évangile, on pourrait dire. Jésus lui répondit, verset 10, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais donné toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » S'ensuit toute une conversation, nous savons, où la femme, dans un sens, mord à l'hameçon, dans le meilleur sens du terme, et engage avec Jésus une conversation autour de sa soif spirituelle. « Donne-moi de cette eau !» dit-elle à Jésus. Et puis Jésus, plus loin dans ce texte, dit à la femme, « Va chercher ton mari. » Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, cette femme, lorsque Jésus lui a demandé « Va chercher ton mari. » Oui ? J'y vais. Oui ? Elle aurait pu aller à la ville. Soit ramener son compagnon, soit ne pas revenir. Elle n'était pas obligée de lui parler en vérité. Moi, je suis vraiment frappé par la manière dont Jésus lui laisse tellement de portes de sortie. Pourquoi ? Je suis convaincu que ce n'est pas parce qu'il savait qu'elle finirait par se convertir. C'est d'ailleurs la première évangéliste des Écritures. C'est la première évangéliste de l'histoire du christianisme. Je suis convaincu qu'il l'a fait parce qu'il respectait en elle la personne. Dieu ne veut pas des gens convaincus par des faits. Dieu veut des gens qui sont emportés par le désir de construire une relation avec lui. Et c'est ainsi qu'il cultive cette relation avec cette femme. C'est court, c'est bref, c'est résumé. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue par la suite. Mais c'est clair que l'impact de l'évangile chez elle a transformé son existence et celle de son village, semble-t-il, de sa ville en tout cas. Elle aurait pu retourner, oui, en disant et ne plus jamais revenir. Tellement d'autres issues possibles de cette histoire. Sauf que Jésus la respectait, lui donnait ce dont elle avait besoin, attendait qu'elle exprime ses réelles interrogations avant de lui donner les réponses. Combien souvent nous apportons des réponses à des questions que les gens ne se posent même pas ? Ou nous pensons qu'en arrosant aussi largement que possible, un peu comme on mettait dans les années 80 des traités d'évangélisation dans toutes les boîtes aux lettres, en espérant qu'il y en aurait peut-être un ou deux qui un jour enverraient le bon pour demander un évangile ou un cours biblique. C'était pas mauvais, mais en fait, les premiers bénéficiaires de ce genre d'effort d'évangélisation, c'est surtout ceux qui le font et qui réfléchissent à pourquoi ils sont en train de le faire. La manière dont Jésus évangélisait est un exemple extraordinaire à imiter dans notre façon d'accueillir ceux qui nous entourent. J'aimerais vous inviter à une autre lecture dans un texte moins fréquemment abordé. Dans Luc chapitre 18, nous avons une petite phrase qui m'a beaucoup inspiré au fil du temps. Luc chapitre 18. À partir du verset 31, nous lirons du verset 31 au verset 34. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit : Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ce petit verset, Jésus prit les 12 avec lui et leur dit. Alors, je vous ai bien dit hier que je ne suis pas sportif, mais j'ai vu assez de matchs où je vois le capitaine de l'équipe, avant un match, rassembler des équipiers. C'est un peu ce qu'on a vu dans le film. Ceux qui étaient là pour regarder le film hier soir, vous l'avez peut-être vu. Hein, vous avez vu l'entraîneur ou le capitaine de l'équipe, ça peut être là. On voit de ces images, on a cette image d'une équipe qui se retrouve, voilà, quelques dernières petites paroles d'encouragement. Allez, on y va les gars. Et c'est ce que Jésus est en train de faire là. Il a formé une équipe, il les assemble, juste avant de passer à l'étape suivante dans le match. Juste avant de passer à l'étape suivante, hein, la Bible le dit, et voilà, on va monter à Jérusalem. Quelques paroles d'encouragement. Vous avez remarqué la réaction des disciples ? Verset 34. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Alors, Luc est un auteur, un écrivain absolument extraordinairement littéraire, construit. Si vous avez fait des études de lettres, que vous lisez l'évangile de Luc en tant qu'étudiant de lettres, vous verrez à quel point Luc était un écrivain absolument merveilleux, extraordinaire. Évidemment, il y avait le Saint-Esprit derrière lui, oui, je sais, mais tous les écrivains humains, le Saint-Esprit utilise nos compétences humaines, y compris ceux qui ont écrit la Bible. Et tous n'avaient pas le même talent littéraire de Luc. Luc répète trois fois la même chose dans ce verset 34. C'est comme s'il nous disait, voilà, il n'y a rien compris, nothing at all, nada, niet, rien. C'est vraiment enfoncer le clou. Comme disait un de mes profs de maths, utiliser un marteau-piqueur pour casser une noisette. Luc utilise un marteau-piqueur pour casser une noisette. Les disciples n'ont rien capté de ce que Jésus était en train de leur dire. C'est dommage, hein, juste avant le moment crucial du match. Ce capitaine qui rassemble ses troupes, qui leur met les bras autour des épaules en disant, voilà les gars, on y va. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que nous lisons un rappel de l'accompagnement du Seigneur dans nos difficultés, dans nos incompréhensions, dans nos faiblesses et nos failles. C'est le témoignage de très nombreuses personnes qui passent par l'épreuve, même quand le raisonnement humain échoue à expliquer ce qui est en train de se passer. Il y avait de bonnes raisons pour lesquelles les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. Et nous allons, nous, dans notre vécu chrétien et dans notre vie d'église, avoir plein de moments semblables où nous ne comprenons pas, où nous ne comprendrons pas pourquoi le Seigneur laisse certaines choses se faire, pourquoi les gens agissent de certaines manières, pourquoi le Seigneur amène dans nos églises des personnes de telle ou telle nature, ou de telle, pourquoi est-ce que telle ou telle personne s'est approchée et semble s'intéresser au Seigneur. plein de choses que nous ne comprenons pas. Jésus demande à ses disciples d'avancer avec lui malgré leur incompréhension. Jésus nous prend auprès de lui dans son équipe. Et c'est parce qu'il nous accueille dans son équipe que nous sommes appelés, nous, à accueillir les autres dans l'équipe que nous formons avec lui. Jésus nous prend auprès de lui dans son équipe malgré nos faiblesses et nos incompréhensions. Il nous veut dans son équipe. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas commencé mon intervention de cet après-midi avec une petite histoire comme je l'ai fait dans les deux autres interventions. C'est maintenant que je vais vous la raconter. Il y a quelques années, j'étais animateur d'école de dimanche, enfin animateur du culte des enfants. Je considère que mes années de moniteur d'école du dimanche étaient parmi les plus riches de mon ministère pour le Seigneur depuis une trentaine d'années. C'était à l'église libre d'Avignon. Luc et Joël connaissent les lieux. Et dans cette église, donc, moi j'étais animateur du groupe des grands, en fait. Oui, c'est ça, des grands. C'était à l'étage. Et c'était aussi dans la salle où il y avait la table de baby-foot. Alors parfois, ça arrive dans les églises, pas chez vous, je suis sûr, mais parfois ça arrive que le pasteur parle trop longtemps et que la prédication dure trop longtemps. Et donc, ce qui se passait régulièrement, c'est que le programme de l'école du dimanche était terminé. Le pasteur continuait à parler, le culte n'était pas fini. Et donc, les enfants s'occupaient comme ils pouvaient. Et nous, les moniteurs, on cherchait à garder le silence pour ne pas trop déranger le culte à côté. Et donc, ce qui se passait, c'est que certains des moyens montaient jouer au baby-foot. Alors, l'école du dimanche se termine. Moi, je suis en train de ranger, d'essayer de décoller les papiers collés sur les tables, de ranger mes stylos, mes crayons, mes feutres, tout ça. Et il y a trois garçons, deux qui devaient avoir dans les 7-8 ans, et un qui devait avoir 11-12 ans, qui se mettent au baby-foot. Alors, les deux plus jeunes jouent contre le grand, évidemment. Et puis, les deux plus jeunes gagnent la partie. Sur ce, arrive une petite fille que je vais appeler Justine. Alors Justine, c'est une petite fille qui venait d'un passé, d'un milieu social défavorisé. Justine avait aussi, elle aurait dû bénéficier de soins d'orthodontie, dont elle n'avait pas bénéficié malheureusement. Et donc, elle avait une mâchoire d'une forme un peu particulière. Et son surnom, les enfants peuvent être cruels, son surnom à l'école, je l'ai appris par la suite, était la Guenon, à cause de la forme de sa mâchoire. La petite Justine, enfant en situation défavorisée, arrive et se met au bout du baby-foot en train de regarder les grands garçons en train de jouer au baby-foot. Les deux plus jeunes gagnent la partie et la question se pose, est-ce qu'on fait la revanche? Alors, ils décident oui, on va mélanger les équipes. Sur ce, Justine dit, moi je veux jouer, qui me veut dans son équipe? Justine était bien plus jeune, elle avait peut-être 6-7 ans, les deux garçons 7-8 ans et le grand 12 ans. Qui me veut dans son équipe? Alors moi, j'étais en train d'écouter d'une oreille, de ma table, j'étais, oh là là, parce que à 12 ans, 7-8 ans, 12 ans, les garçons, c'est pas très sensible. Et comment ils vont répondre à Justine? Il y a eu un moment de silence, un moment d'hésitation, et puis le plus grand a dit, moi, je te veux dans mon équipe, viens, on va les battre. Vous auriez dû voir le regard sur le visage de Justine. Elle s'est illuminée parce qu'elle avait été acceptée dans l'équipe, elle avait été accueillie dans l'équipe du grand garçon. Et puis, ils ont joué leur partie. Je ne me souviens plus du reste. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait ce soulagement en moi que quelqu'un avait capté de quoi Justine avait besoin ce jour-là. Si Jésus nous accepte si facilement dans son équipe, c'est que notre intégration ne dépend pas de nos capacités, mais de lui. Le grand garçon accueillait Justine, pas parce qu'elle était douée au baby-foot, mais parce qu'il avait suffisamment de maturité pour savoir que gagner une partie de baby-foot, c'était beaucoup moins important qu'accueillir quelqu'un qui voulait être accueilli. Moi, je dérive à un réconfort immense de cette pensée. Que Jésus m'accueille dans son équipe, pas parce que je suis doué, pas parce que j'ai plein de compétences. Il m'accueille dans son équipe parce qu'il m'aime. Parce que j'ai besoin d'être accueilli. Et c'est pareil pour tout être humain. Notre responsabilité dans l'accueil, dans l'équipe du Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le thème de cet après-midi, c'est de ne pas voir l'accueil comme une ressource, comme un outil vers autre chose, mais comme un bien en soi, comme une dynamique de vie chrétienne. Notre responsabilité dans la communication de l'Évangile, dans l'accueil dans l'équipe du Seigneur, ne se limite pas à, se limite à une disponibilité active et intelligente pour que Dieu puisse nous utiliser. Vous allez dire que je me répète, mais j'aime bien enfoncer ce clou. C'est important. Nous sommes, lorsque nous réfléchissons à l'accueil, il faut ne pas oublier que l'important, ce n'est pas nous qui allons l'accomplir. C'est Dieu qui va l'accomplir dans la vie de ceux qu'il met sur notre chemin. Plusieurs personnes sont venues me parler, après la réunion d'hier et après celle de ce matin, en parlant des... Voilà, les occasions de témoignage dans la vie de tous les jours, avec la famille, avec les collègues, avec les autres membres du club. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses? Et très souvent, c'est prier et demander au Seigneur de nous ouvrir les portes, être au bon endroit, au bon moment. Dans le domaine du témoignage, nous devons réfléchir à l'image que nous donnons. Nous devons nous poser des questions sur notre efficacité dans l'accueil. Mais sans oublier que nous n'avons pas d'obligation de résultat. Nous n'avons qu'une obligation de fidélité et de vérité. Dans l'accueil, nous n'avons pas d'obligation de résultat. Notre obligation se limite à la fidélité et à la vérité. Nos temps de réflexion ensemble sont presque terminés. J'ai survolé toutes sortes de situations. Et dans un instant, je vais ouvrir la parole pour que vous puissiez aussi poser des questions ou faire des remarques. Mais ce survol très incomplet ne tient pas compte de toutes les situations et de toutes les réalités. Mais je dirais qu'une évolution positive dans ce domaine, l'accueil des personnes différentes, de cultures différentes, d'églises différentes, passera par deux processus. D'abord, la nécessité d'identifier les enjeux et les influences. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à accueillir certaines personnes? Pourquoi est-ce que nous préférons accueillir d'autres personnes? Réfléchir de manière intentionnelle sur la façon dont nous gérons ce genre de questions. Nous aurions pu passer toute une session rien qu'à parler de l'accueil dans nos églises des personnes qui viennent d'églises différentes de la nôtre. Quand quelqu'un arrive dans la région, qui aime le Seigneur, mais a une théologie différente du baptême. Allez, je m'adresse à une église baptiste. Mais vient d'une église évangélique avec une théologie différente du baptême. J'interviens très souvent dans les églises mennonites. Les églises mennonites ne sont pas calvinistes. Pensent qu'ils ont une vision très différente de celle de la plupart de nos églises baptistes, ou églises de frères, ou églises... comme celle où je suis, l'Alliance des Églises Évangéliques Interdépendantes, ils pensent que le salut peut se perdre. Comment est-ce que nous allons accueillir des personnes qui viennent avec une théologie différente de la nôtre? Est-ce que nous exigeons, pour devenir membre de l'Église, qu'ils soient d'accord avec toute notre théologie, toute notre doctrine du baptême, toute notre doctrine du Saint-Esprit? Certaines églises choisissent précisément de ne pas avoir des règles doctrinales trop strictes, justement pour pouvoir accueillir plus largement ce qui correspond pour eux à l'image du corps de Christ dans ce monde. Certaines questions, lorsque nous réfléchissons à notre manière d'accueillir, relèvent du péché, de l'orgueil, de la susceptibilité. Une église de personnes plutôt aisées qui n'a pas trop envie peut-être de se préoccuper de personnes dans, qui vivent à la rue. Je pense à cette église de San Francisco que je mentionnais ce matin. Mais monsieur le pasteur, on ne va pas commencer à travailler avec les malades du sida. On aura des homosexuels qui viendront dans notre église. Ce serait un risque que nous ne voudrions pas courir. D'autres enjeux nécessitent une rectification. Peut-être tenir compte de l'histoire de chaque individu, prise en compte saine et sereine. Il suffit de comprendre pourquoi, pourquoi cette personne vient avec telles attentes, telles demandes, telles questions. Et puis, donc ça, c'était l'identification, la réflexion autour du tri et le tri des enjeux et des influences. Et puis, il y a aussi les mécanismes de changement. Parfois, nous comprenons que nous accueillons dans notre Église des personnes qui risquent de susciter le changement. Je vais parler de l'accueil d'une sorte de personne dont, moi, je n'ai jamais entendu vraiment une réflexion sereine à cette question. L'accueil d'une belle femme divorcée dans une église. Vous avez déjà réfléchi ? Je ne connais pas beaucoup d'églises qui réfléchissent intentionnellement à ce genre de choses, mais j'ai vu combien de fois j'ai vu et entendu des situations difficiles autour de cette question-là. Parce qu'une belle femme divorcée dans une église, bien les autres femmes se disent, mon mari, comment il va la regarder ? Et j'ai vu des accidents, je pense surtout à une situation où il y a eu une catastrophe, où il y a eu un couple qui s'est séparé à cause d'une infidélité dans précisément ce genre de situation. Il y a aussi beaucoup d'autres questions qui tournent autour, par exemple, du racisme dans l'Église. Je me souviens, lors de ma toute première église où j'avais des responsabilités pastorales, il y avait une famille qui s'est mise à venir à l'église. Alors, c'était une famille d'origine béninoise. Valérie était une des 40 et quelques arrière-petits-enfants du dernier roi du Dahomey. Donc, le Dahomey, c'est l'ancien nom du Bénin. Et donc, j'ai été pasteur d'une princesse. Alors, toutes mes paroissiennes sont des princesses aux yeux de Dieu, évidemment, dans l'absolu. Mais j'ai été aussi pasteur d'une princesse terrestre, on va dire. Et donc, cette famille-là, Frédéric, le mari, était carreleur. Il gagnait sa vie en tant que carreleur. C'était très intéressant pour moi d'être pasteur de cette famille quand ils sont arrivés dans l'église. Valérie a intégré la réunion de dames. Et un jour, je me souviens, je ne sais pas pourquoi elles ont commencé à parler de cette question, mais un jour, Valérie a simplement évoqué le racisme dont elle et sa famille faisaient l'objet dans un petit village des Bouches-du-Rhône, au nord de Marseille, de l'autre côté de la Durance, de Cavaillon, où j'étais, où nous étions. Et du fait que le malheur, les difficultés que sa famille avait éprouvées à cause du racisme étaient exacerbées par le fait qu'elle était constamment entourée ou constamment mise devant le fait des avantages du colonialisme de son pays par les Blancs. Et malheureusement, les autres dames dans l'église, dans cette réunion, n'ont eu qu'une une réaction. Et c'était peut-être à moi, en tant que pasteur, de mener une réflexion, mais j'étais tout jeune pasteur à l'époque, c'était tout au début de mon ministère. Et elles ont eu, la seule réaction qu'elles ont eue, c'est « Mais ma sœur, mais Valérie, il faut que tu apprennes à pardonner !» Attendez. Il n'y a pas autre chose comme réflexion à mener sur les effets du colonialisme dans notre monde d'aujourd'hui, sur les effets du racisme dans nos églises, que simplement il faut apprendre à pardonner. Il est certain qu'il nous faut avoir une réflexion beaucoup plus approfondie et beaucoup plus mûre sur les questions du racisme dans nos églises. Je pense au racisme, je pense à l'accueil des personnes d'origine arabe, musulmane, dans nos églises. Tout un débat. tellement de questions où l'accueil de la personne qui arrive dans notre Église mérite une réflexion, mérite un approfondissement. Et plus nous serons intentionnels, plus nous aurons préparé le terrain à l'avance, plus nous saurons comment réfléchir à ces questions avant qu'elles nous tombent dessus, plus notre accueil sera efficace. L'accueil de personnes d'origine, de culture non française. Les limites de notre devoir d'accueil. Comment gérer, veiller au bon fonctionnement des mécanismes de changement. Toutes ces questions méritent une réflexion. Et dans un sens, j'ai fait un bref parcours de tous ces enjeux à la fin. Non pas pour nouer la gerbe, mais pour vous dire, cette gerbe, elle est éparpillée partout. C'est à vous, dans votre vécu, dans votre témoignage, de la nouer. Avec quelques-uns des outils peut-être que nous avons évoqués ensemble. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions?
Je veux bien faire une remarque. Je reviens sur la jolie femme divorcée.
Oui,
aïe. Si ça pose problème, une oui. Jolie femme célibataire, ça pose le même problème.
Exactement, oui, exactement. Absolument. Très souvent, moi j'ai parlé d'un cas de figure auquel je pense très précisément. Mais, ouais. Dans un sens, je pense que la raison pour laquelle j'ai parlé d'une jolie femme divorcée, c'est parce que lorsqu'on parle de la capacité de séduction des différentes personnes, on a l'habitude de penser à la jeunesse, aux jeunes adultes, à l'adolescence et à la situation des jeunes adultes. Or, c'est de nos jours, dans nos églises, de plus en plus, nous vivons une situation où ces enjeux de la séduction, des rapports entre les sexes, surgissent dans nos églises, là où, jusqu'à présent, nous avions moins l'habitude de les rencontrer. Je crois que c'est ça que je peux dire. C'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple. Mais merci d'avoir demandé la précision.
Le problème n'est pas sur la beauté de la femme, elle est pour rien, on ne va pas la voler.
Absolument,
C'est le regard que les hommes vont porter dessus.
Exactement, absolument. Et moi je parle aussi du regard des autres femmes dans l'église, sur elles.
Ça peut être valable pour les hommes.
Ça peut être valable pour les hommes, oui. Je pense que ça l'est moins souvent, mais ça peut être valable pour les hommes, tu as entièrement raison, oui. Oui. Exactement.
Par rapport à une femme célibataire qui n'a jamais été mariée, c'est quand même pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose, oui. Les mêmes genres de questions se posent, mais pas tout à fait de la même manière, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions?
Il me semble que le mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot de discipline. Et donc, il y a une discipline implicite. L'idée, par exemple, des darbistes ou d'autres, ils ont une discipline explicite. Ils font un peu appel à une liste de ce qu'il faut être, faire et choses comme ça. Et on se rend compte que c'est pas ce que fait la Bible. Elle ne donne pas des prescriptions, comme tu as dit, de choses comme ça. Donc, le sujet général à traiter, c'est la discipline dans l'Église. Mais il est possible que, dès que quelqu'un arrive... je ne sais pas comment ça lui est dans l'accueil, dans le cadre de l'accueil, il aura une idée qu'il y a une discipline. Il va nous regarder et a priori, il va se conformer à l'ensemble des choses sur les tenues vestimentaires, sur le respect du bruit, des horaires ou des choses de ce genre-là. Et il semblerait que l'intégration qui devrait suivre l'accueil fait qu'on va aborder les sujets de discipline de façon explicite. Pour vérifier que c'est ça.
Tu évoques là la question du légalisme, qui est une question cousine de l'accueil. Philippe Yancey, dans Touché par la grâce, parle de la difficulté de la grâce par rapport à la facilité du légalisme. Dans un sens, ça paraît avoir une liste de disciplines, une liste de règles qui cadrent bien les choses, peut sembler difficile, mais c'est légaliste ça. Mais c'est quand même plus facile. Il dit de la façon suivante, J'essaie de me souvenir. C'est relativement facile d'éviter le lit de la voisine ou du voisin. C'est beaucoup plus difficile dans un couple de maintenir la vivacité du couple. C'est relativement... Alors, il fait toute une liste de choses dont on a l'habitude de dire, voilà, ça c'est une règle. Mais il dit, au final, beaucoup des règles ne sont pas si difficiles que ça à suivre. Par contre, la grâce qui chemine avec les gens, qui s'ouvre aux réalités de la vie, ça nous complique la vie. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Merci, Luc. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres questions ? On va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Tu nous as entendus, tu nous as écoutés. Tu as entendu les questions qui sont posées, tu as entendu celles qui n'ont pas été posées. Je te demande que tu puisses bénir mes frères et sœurs de l'Église baptiste de Clermont-Ferrand. Que leur vécu de l'accueil, que leur mise en pratique de l'accueil et de toutes les questions voisines dont nous avons parlé puissent refléter ta gloire, contribuer à l'extension de ton royaume et amener beaucoup de personnes à se tourner vers toi avec un regard de reconnaissance, d'adoration et de joie. Nous te remercions pour la résurrection qui nous attend. Nous te remercions pour ta victoire sur la mort, qui signifie en même temps ta victoire sur tous nos problèmes, toutes nos impasses éthiques, toutes nos difficultés pastorales, toutes nos tentations. Seigneur, nous nous mettons entre tes mains, et je remets mes frères et sœurs ici, et tous ceux qui, de leur église, n'ont pas pu rejoindre ce week-end. Que tu leur apportes, que tu leur donnes un chemin tracé de grâce, de joie, dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Au nom de Jésus. Amen.